10h, Céline Landreau et Éric Brunet.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce RTL Midi. 2h30 d'information, 2h30 de débat, d'opinion. Ça ira jusqu'à 14h30, bien sûr, mais tout de suite, l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour, Éric. Bonjour à tous. Des vêtements, une partie de sa dépouille, mais toujours pas de certitude pour expliquer la mort du petit Émile. Les fouilles se poursuivent au Vernet aujourd'hui encore, rendues difficiles par les conditions météo, tandis que les ossements et vêtements de l'enfant sont analysés pour tenter d'éclaircir le mystère qui entoure toujours son décès. On y reviendra longuement dans cette édition. À suivre aussi le sondage secret qui conforte le gouvernement dans sa volonté de réformer l'assurance chômage. Mars 2024, cinquième mois de mars le plus pluvieux depuis le début des mesures, et il pleut encore aujourd'hui. Lyon est toujours en alerte rouge au cru des phénomènes météo qui abîment notre réseau routier, pas suffisamment entretenu. Nos routes vont mal, on vous en parle à 12h40. Avant ça, à 12h20, RTL Midi, votre ville a plongé dans votre quotidien. Et aujourd'hui, le bisou magique existe-t-il? On va vous parler des mythes autour de la pédiatrie. Et je peux déjà vous le dire, oui, le bisou magique, ça marche. Et il y a une explication scientifique à cela. À partir de 13h, vous le savez, un seul numéro, c'est le 3210 pour discuter avec vous, Éric Bonnet.
Trois thèmes aujourd'hui. Nos routes sont-elles dangereuses? C'est le premier thème. Deuxième thème, est-ce que les promesses faites aux agriculteurs sont tenues? Est-ce que ça change? Deuxième thème. Troisième thème, la passion des Français pour le Madison et le country. Ils sont des millions à pratiquer ça, on en parlera. Aujourd'hui, dans Les Auditeurs ont la parole, le standard est ouvert, 3210.
Avant ça, la météo avec vous aujourd'hui, Peggy, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
C'est ça Céline, et dans le ciel aussi, ça danse Peggy.
Oui, c'est vrai que le ciel sera changeant sur les deux tiers nord du pays et bien ensoleillé sur un tiers sud.
Merci Peggy, les détails à la fin du journal.
RTL Midi.
Et avant de développer ces titres, donc, on voulait vous parler de cette découverte hier après-midi en plein Paris. Par hasard, un technicien d'Enedis qui intervenait dans un puits pour des raccordements électriques s'est retrouvé à l'entrée d'un tunnel artisanal, un tunnel, Planar Adenovic, qui prenait la direction de la prison de la Santé.
Oui, grande surprise en effet pour ce technicien hier en fin de matinée quand il s'est retrouvé face à ce tunnel plein de gravats long de moins de 5 mètres, comme nous le précise une source pénitentiaire ce matin. Un tunnel donc qui semble prendre la direction de la prison de la Santé, mais le personnel de la maison d'arrêt n'est pas inquiet du tout parce que la galerie s'arrête à 450 mètres de la prison et aucun lien n'est fait à l'heure actuelle avec une quelconque tentative d'évasion. La police est tout de même venue, bien sûr, faire ses constatations. La mairie de Paris, qui a immédiatement condamné l'accès à ce tunnel, va reboucher le trou. Et pour le moment, selon nos informations, aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. La piste privilégiée à ce stade alors est celle de cataphiles. Ce sont des passionnés de spéléologie qui aiment se retrouver dans les entrailles de Paris.
Merci Planar Adenovic.
RTL Midi.
Et puis au lendemain des annonces du procureur sur les avancées de l'enquête sur la mort du petit Émile, les fouilles ont repris ce matin au Vernet.
Oui, car même si les vêtements ont été retrouvés et que le crâne de l'enfant a pu commencer à être analysé, rien ne permet aujourd'hui d'indiquer avec certitude les causes du décès. Et c'est bien pour cela que les fouilles se poursuivent, Arthur Pereira, car les enquêteurs espèrent maintenant retrouver le reste de sa dépouille.
Oui, dans des conditions météorologiques peu favorables, puisque depuis ce matin, les averses de pluie se succèdent. Le thermomètre de ma voiture lui affiche 4 degrés seulement, ce qui complique les recherches des enquêteurs et plus particulièrement celles des équipes cynophiles. Vous savez, ces chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. La pluie peut altérer la diffusion des odeurs, ce qui rend leur travail plus difficile, plus long. Les nuages bas, le léger brouillard cloue aussi les drones au sol. Impossible pour eux de survoler la zone et donc de la cartographier grâce à leur caméra thermique ou infrarouge par exemple. Malgré toutes ces difficultés, les militaires poursuivent leurs investigations à pied sur ce terrain, on le rappelle, à flanc de montagne où la végétation est dense, des sapins, des bouleaux, des ronces, sans oublier les pierres et la terre boueuse. Des gendarmes toujours à la recherche du moindre indice. Le colonel Christophe Berthelin, patron de la section de recherche de Marseille, l'a rappelé. Les fouilles continueront le temps qu'il faudra.
Arthur Pereira au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence pour RTL et on reviendra sur toutes les questions qui restent en suspens juste après le journal, l'analyse des vêtements, ce que l'on peut conclure du lieu de la découverte du corps, ce que les enquêteurs attendent désormais, toutes les réponses donc dans moins de 10 minutes maintenant.
Et puis le gouvernement, ça on le sait, on l'a compris, souhaite réformer l'assurance chômage. Très bien, pour gagner de l'argent probablement, c'est la véritable raison. En tout cas, il y a un certain nombre d'oppositions, mais l'exécutif a pu se rassurer avec un sondage secret.
Oui, une enquête d'opinion commandée pour sonder les Français sur cette réforme annoncée par le Premier ministre. Et le résultat va conforter Gabriel Attal, car Thomas Desprez, d'après cette étude, 6 Français sur 10 y sont favorables.
Exactement, 61% des sondés approuvent une diminution de l'indemnisation chômage. C'est le principal projet du gouvernement, passé de 18 mois aujourd'hui à beaucoup moins, officiellement pour encourager le travail. Mais oui, Eric, vous l'avez dit, en coulisses, certains évoquent aussi une bonne manière de faire des économies, de trouver ces fameux milliards manquants. Dans ce même sondage que les conseillers de l'exécutif se refilent depuis hier, 66% des Français estiment que les chômeurs pourraient trouver un emploi s'ils le souhaitaient. 72% que les prestations sociales découragent le travail, et même 3/4 des Français disent qu'il y a trop d'assistanat. Bref, de quoi relativiser les critiques en interne, et c'est exactement la raison pour laquelle ce sondage a été présenté hier matin par Gabriel Attal au cadre de la majorité, et notamment à Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui a estimé dans la presse que ce n'était pas le bon moment pour une telle réforme. Un autre, Sacha Houlier, figure de l'aile gauche dans le grand jury dimanche, a estimé que c'était une mauvaise idée. Mais pas sûr que ce sondage secret ne finisse vraiment par les convaincre.
Thomas Desprez en direct de l'Élysée pour RTL. Le gouvernement qui l'annonce à l'instant, une tentative de passage à l'acte a été déjouée pendant le week-end de Pâques. Tentative d'attentat visiblement, puisqu'il s'agit de la vigilance renforcée sur le plan Vigipirate. Vous savez qu'il a été rehaussé au niveau alerte attentat il y a une dizaine de jours maintenant. On y revient évidemment dès qu'on aura plus de détails dans le journal de 12h30. Il n'y aura pas de passe rail cet été. Sa mise en place a été officiellement enterrée ce matin par le ministre des Transports chez nos confrères de France Info, Patrice Vergriete, qui pointe du doigt le refus de 3 présidents de région, Hervé Morin pour la Normandie, Xavier Bertrand pour les Hauts-de-France et Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Promis par Emmanuel Macron, ce passe rail devait permettre aux jeunes d'avoir un accès illimité aux trains TER et Intercités grâce à un forfait mensuel sur le modèle en fait de ce qui existe déjà en Allemagne.
Et puis il a plu, il a beaucoup plu au mois de mars en France. L'excédent d'ailleurs pluviométrique aurait atteint près de 85% dans le pays d'après Météo France. Donc plus 85% de pluie en mars.
À l'exception notable de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, toujours en déficit eux, mais à l'échelle nationale effectivement, mars 2024 est le 5e mois de mars le plus humide depuis le début des mesures, c'est-à-dire depuis 58. Et il pleut encore en ce début avril. Conséquence directe, ces crues dont on vous parle depuis plusieurs jours, notamment dans l'Yonne, toujours en alerte rouge. Et à Briennon-sur-Armançon, on scrute l'Armançon dont le niveau monte encore et va continuer de monter jusqu'au milieu de la nuit au moins. Sylvie est en train de tout rehausser chez elle pour sauver ses meubles.
Alors on a préparé effectivement la buanderie, machine à laver, sèche-linge, voilà un maximum de choses en hauteur. Malheureusement, le congélateur, c'est compliqué. Parce qu'il est rempli, il est très 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 lourd, on n'arrive pas à le déplacer. Donc on a tout débranché par sécurité. Là, je suis encore en train de vider, il me reste un petit peu de temps. On chauffe effectivement avec un poêle à bois. Là, on sait qu'il va être dans l'eau, donc on a monté un maximum de bois en hauteur. Là, on arrive dans la chambre de ma fille. On espère que ça ne monte pas plus haut, enfin du moins pas plus haut que la hauteur de la télé, parce que là, ce serait vraiment catastrophique.
Un propos recueilli pour RTL par Clément Terra dans l'Yonne. La météo, Peggy, on le disait, ça reste très instable cet après-midi avec donc encore des pluies.
Oui, on a alors le gros des pluies en train de s'évacuer par les frontières de l'Est, mais on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance entre nuages, éclaircies, quelques averses, localement orageux cet après-midi vers la Bourgogne, le tout avec du vent. Une zone où on aura moins d'averses, où ce sera un peu plus clément entre la Normandie, le Val-de-Loire en remontant vers le Nord-Pas-de-Calais. Puis une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne. Je disais du vent jusqu'à 60 km/h dans les terres, 80 sur les bords de Manche. Tout ça, ça concerne les deux tiers nord du pays. En revanche, sur le tiers sud, entre le sud de la Garonne et le sud de la région PACA, c'est un temps sec et ensoleillé, peut-être une petite averse sur le relief des Pyrénées cet après-midi. Concernant les vigilances, vous l'avez dit, Lyon reste en vigilance rouge. C'est la fin de la vigilance rouge pour la Saône-et-Loire. Et l'Aube, la Côte d'Or et la Haute-Marne sont toujours en vigilance orange pour crue. Et les températures, elles sont en hausse. On est au-dessus des normales, globalement, avec 13 cet après-midi à Cherbourg, 14 à Brest, 15 degrés du côté de La Rochelle, 16 à Orléans, 17 à Paris, 18 à Bordeaux comme à Nice, 20 degrés à Nîmes et Toulouse, 21 à Biarritz et 22 à Perpignan.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous, chaque jour l'info est au plus près de vous. Et aujourd'hui, direction Maché, dans le département de la Vendée.
Oui, au lendemain de la publication du rapport sur le financement des établissements scolaires privés, on vous en parlait ici même hier, des établissements qui accueillent aujourd'hui 17% des élèves. On a voulu mettre le cap à l'ouest, où l'enseignement privé est plus implanté qu'ailleurs. Bonjour Mathieu Lopineau.
Bonjour.
Et à Maché, donc Mathieu, il n'y a qu'une seule école, et cette école, eh bien, elle est privée.
Oui, effectivement, dans ce petit village de 1500 habitants, il n'y a pas d'école publique, seulement l'école Saint-Joseph accueillant 160 élèves. Et les parents que j'ai pu rencontrer à la sortie des classes semblent plutôt satisfaits de cette situation.
On habite à 100 mètres, c'est plus facile pour venir.
Catholique, ça peut pour certaines personnes faire peur, mais on se rend compte que c'est plus non plus le catholique d'il y a quelques années.
On trouve que les professeurs sont plus proches des élèves, ils sont plus accompagnés.
Il y a plus de contact avec les parents.
Une présence des éducateurs qu'on ne retrouve pas forcément dans le public.
Alors même si la seule école du village est privée, certains parents font tout de même le choix du public pour leurs enfants. Environ 15 élèves de la commune, soit 10%, sont inscrits dans des écoles publiques situées dans des communes avoisinantes, comme les deux enfants de Sonia qui fréquentent l'école d'Apremont, c'est à 5 km de Maché. Et cela entraîne tout de même une petite organisation.
Il faut les emmener, il faut aller les chercher, il n'y a pas de transport scolaire. Des fois, on arrive à s'organiser, à faire du covoiturage.
Donc, malgré ces contraintes, vous maintenez votre choix. Ça serait beaucoup plus simple d'inscrire vos enfants ici à l'école qui est à 500 mètres d'ici.
Ça serait plus simple, effectivement, mais il faut payer tous les mois.
Donc, c'est aussi pour des raisons financières.
Exactement. Puis par conviction, parce que j'ai un conjoint qui n'est absolument pas sur le principe du privé.
Alors, question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'école publique sur cette commune de Maché en Vendée ?
Alors, Maché n'est pas la seule commune dans ce cas en Vendée. On compte 80 communes sur 250 en Vendée avec une seule école privée, sans école publique. Donc, et c'est historique. Ici, le maire Frédéric Rager n'a pas prévu d'en ouvrir une. Il préfère, comme il dit, mutualiser avec les écoles communales avoisinantes.
Il y en a eu une dans les années 70 et cette école-là, a priori, a fermé faute d'élèves. Depuis, il n'y en a pas eu et maintenant, je vous dis clairement que je n'irai pas sur ce dossier-là de construction d'une nouvelle école publique parce qu'il y a suffisamment d'écoles alentour, toutes proches, qui sont limites en effectif, donc on préfère conforter les équipements existants.
Et pour faciliter le transport des élèves voulant être scolarisés dans le public, sur la commune d'Aisnest, à 7 km de Maché, eh bien la mairie met à disposition tous les matins un minibus et c'est gratuit pour les parents.
Merci beaucoup Mathieu Lopineau pour RTL. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité. Dans un instant, on va revenir sur l'enquête autour de la mort du petit Émile.
Après la découverte du crâne de l'enfant, les fouilles ont permis de retrouver ses vêtements. Ça, vous le savez, mesdames, messieurs, nous l'avons appris hier soir, mais de nombreuses questions restent en suspens.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Éric Brunet, RTL Midi.
Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile.
Cet homme qui parle s'appelle Jean-Luc Blachon, c'est le procureur d'Aix-en-Provence qui faisait le point hier en fin d'après-midi sur les dernières avancées dans l'enquête sur la mort du petit Émile. Et après la découverte du crâne de l'enfant samedi dernier, mais aussi des vêtements lors des fouilles qui ont suivi, des éléments donc, vous l'avez compris, pas toujours d'explication définitive, cela dit, sur les causes du décès. Et toujours, toujours, beaucoup de questions qui demeurent.
Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
Et bonjour Étienne Bauduit en direct du Vernet pour RTL.
Bonjour.
Étienne, pour la quatrième journée consécutive, le village reste bouclé car d'intenses fouilles se poursuivent.
Oui, hermétiquement bouclé par les gendarmes et où les recherches se poursuivent avec un dispositif sensiblement identique d'ailleurs au jour précédent, une centaine d'hommes en tout sur place. Les équipes cynophiles et leurs chiens spécialisés sont sur le terrain à la recherche, bien entendu, d'autres ossements du garçonnet, des ossements qui pourraient éventuellement révéler après expertise les causes exactes de la mort. Mais ces investigations restent difficiles. On sait qu'au cœur de la zone des fouilles coule un ruisseau, mais un ruisseau qui ces derniers temps s'est transformé en torrent, un torrent qui a pu emporter la dépouille de l'enfant. D'ailleurs, ce matin, il pleut à nouveau abondamment et par exemple, les drones ne vont pas prendre l'air aujourd'hui.
À ce stade, on le répète, Étienne, les éléments recueillis par les enquêteurs ne permettent absolument pas d'expliquer les causes du décès d'Émile.
Absolument pas, à commencer par le crâne analysé par les spécialistes de l'IRCGN, un crâne avec des traces de morsures, celles des animaux sauvages très nombreux dans cette zone boisée. Un crâne qui présente également des fissures, mais des fissures provoquées, disent les spécialistes, par post-mortem après la mort du petit, sans doute lorsque le corps a été chahuté, malmené dans un environnement fait de pierres, de cailloux, hein, ceux du torrent, de branches et de troncs d'arbres aussi, d'où l'importance, comme je le disais, de trouver d'autres ossements. L'analyse des vêtements aussi peut s'avérer capital.
Alors justement, les vêtements, Maxime, c'est l'élément nouveau que l'on a découvert hier en fin d'après-midi. Ils vont maintenant être analysés de manière très poussée.
Oui, tout comme le crâne, ces vêtements ont été transportés en urgence par hélicoptère à Pontoise, près de Paris, pour être analysés dans les laboratoires de l'IRCGN, la gendarmerie scientifique. Un t-shirt, une culotte, les deux chaussures d'Émile, voilà ce qui a été retrouvé, éparpillé sur une dizaine de mètres à proximité du crâne et d'un ruisseau qui, par forte pluie, Étienne l'a dit, a pu. C'est une hypothèse charriée, ces indices. Ce que les enquêteurs cherchent sur ces vêtements, c'est de l'ADN et ou du sang autre que celui d'Émile. Il est possible d'en trouver, même si ces vêtements sont très abîmés. On va également chercher des déchirures non naturelles causées par une lame, par exemple, permettant d'accréditer une hypothèse plutôt qu'une autre. Habituellement, les enquêteurs prennent des échantillons de ces vêtements pour les analyser, mais là, les enjeux sont trop importants. Chaque millimètre carré de tissu va être passé au peigne fin.
Puis plus ennuyeux pour l'enquête, on l'a dit, le reste de la dépouille de l'enfant n'a pas été retrouvé malgré les recherches. Comment peut-on l'expliquer ?
Eh bien, c'est vrai que le procureur l'a dit, il n'est pas impossible que les équipes de recherche l'été dernier, soient passées à côté du corps d'Émile malgré des moyens technologiques et humains inédits déployés. Il a évoqué plusieurs raisons. Déjà, il n'est pas garanti que chaque mètre carré ait été parcouru. Il y a certes un sentier, mais de chaque côté, des pentes à pic qui avoisinent parfois les 30% d'inclinaison, une végétation dense en été où ni les hommes ni les chiens n'ont pu s'aventurer. Ensuite, la température en juillet dernier avoisinant les 30 degrés à l'ombre, une chaleur qui a pu perturber le flair des chiens pisteurs, mais qui a aussi pu rendre les drones à caméra thermique complètement inutiles.
On est dans une zone assez escarpée. Étienne, on s'interroge sur les capacités de l'enfant à s'y rendre seul. Et à ce stade, d'ailleurs, rien n'indique que le lieu où a été découvert le crâne est aussi celui du décès.
Non, alors ce qu'on sait seulement avec précision, c'est que le crâne et les vêtements ont été retrouvés à 1,5 km à vol d'oiseau du hameau du Auvernais, là où résidait Émile avec chez ses grands-parents. Par la piste, on est à 2,5 km, 3 km, à 25 minutes en tout cas à marche d'homme. Sans doute plus évidemment pour un petit garçon de 2 ans et demi, mais rien d'impossible. En s'écartant de la piste, on tombe donc sur le sentier où a été retrouvé le crâne. Un sentier à flanc de colline avec des pentes abruptes de chaque côté, une zone très escarpée, vous le disiez, et difficile d'accès tout de même, mais là encore, rien d'impossible. Vous avez raison aussi, hein, les enquêteurs donc, ne possèdent aucun élément matériel qui puisse leur permettre d'affirmer avec précision que c'est à cet endroit même que le petit Émile est décédé.
Alors, il y en a bien évidemment qui reparlent de la thèse de l'accident. En tout cas, Maxime, est-ce qu'il ne faut pas commencer à se préparer à l'idée qu'on ne saura peut-être jamais ce qui est arrivé à Émile?
C'est une possibilité assez terrible, mais une possibilité quand même, Étienne l'a longuement rappelé, la météo difficile, les animaux ont grandement détérioré la zone de découverte du corps. Pour se donner toutes les chances de découvrir la vérité, les enquêteurs ont besoin du corps en entier. C'est primordial, c'est tout ce qu'ils auront pour trouver d'éventuelles lésions compatibles soit avec un accident, une chute ou un meurtre. Déjà, ce n'est pas gagné, et même avec ça, il est possible que les causes de la mort d'Émile restent un mystère.
Merci beaucoup, Maxime Lévy. Merci Étienne Baudu, envoyé spécial d'RTL Auvernais.
Je vous redonne rapidement à 12h20 le programme des auditeurs ont la parole. À 13h, première partie, mesdames, messieurs, nos routes sont-elles dangereuses? Deuxième partie, est-ce que, après les promesses faites aux agriculteurs, est-ce que ça bouge? Et troisième partie, cette passion des Français que je découvre, moi, des millions de Français qui pratiquent le country, le Madison. Nous parlerons de ces trois sujets. Le standard est ouvert, 32-10.
Avant ça, dans un instant RTL Midi, votre vie, collier d'ambre, bisous magiques, mythes ou remèdes de grand-mère efficaces, comment trier le vrai du faux en pédiatrie, on vous l'explique tout de suite.
Céline Landreau, Éric Brunet, RTL Midi. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Tu t'es blessé? Viens ici que je te fasse un bisou magique.
Ah, le bisou magique, vous en avez reçu enfant, distribué peut-être une fois par an ou grand-parent. Mais le bisou magique existe-t-il? C'est le titre de votre livre. Nicolas Winter, bonjour.
Oui, bonjour.
Plus connu sous le nom de Toubib or Not Toubib, vous êtes médecin aux urgences pédiatriques à Valenciennes et vous publiez donc aux éditions First ce livre, un guide pour trier le vrai du faux en pédiatrie, livre dans lequel vous tordez le cou à quelques idées reçues. Et d'abord, pour reprendre le titre, vous nous apprenez que oui, le bisou magique, ça fonctionne.
Mais oui, tout le monde le sait, je pense, maintenant. Le bisou magique, on le fait quand même depuis le temps qu'on est tout petit. Le bisou magique, ça existe. Et par contre, ce qu'on a un peu oublié, c'est que le bisou magique, ce n'est pas que de la magie. Ça existe également parce que il y a des mécanismes qui sont à l'action dans notre corps.
C'est ça, scientifiquement, comment ça marche, si vous pouviez le résumer ?
Pour résumer, si vous voulez, on va dire qu'il y a différentes routes de l'information qui mènent de l'endroit où on se blesse jusqu'à notre cerveau qui reçoit l'information, et que ces routes, en fait, amènent les informations de façon plus rapide selon si c'est une information sur la douleur ou sur la sensation du toucher. Et que l'information de la douleur va moins vite sur ces autoroutes de l'information que l'information de la sensation. Donc si vous avez mal et que vous mettez une sensation par-dessus, donc le bisou magique, le souffle magique,
une sensation
le fait
agréable,
de toucher la blessure, ça va venir plus rapidement que la douleur. Mmh. Et du coup, vous avez atténué la douleur. Donc ça s'explique.
Alors Nicolas Winter, je rappelle votre surnom, votre pseudo « Toubib or Not Toubib ». Évidemment, il n'est pas question que de bisous dans ce livre. Il y a beaucoup de conseils, parfois très concrets. Par exemple, quand un enfant est pris de vomissement.
Oui. Il y a des conseils très concrets parce que les vomissements, par exemple, chez l'enfant, viennent surtout du fait que l'enfant, quand il jeûne, quand il va vomir, il va plus avoir assez de sucre dans le sang, ça s'appelle la glycémie, et il va falloir la maintenir. Donc pour la maintenir, le corps, il va produire une autre substance, ça s'appelle l'acétone, sauf que l'acétone, ça fait vomir. On appelle ça de la crise d'acétone, ou parfois même dans d'autres circonstances, on dit crise de foie. Et pour arriver à arrêter les vomissements, contrairement, on va dire, aux idées reçues habituelles, c'est pas forcément les médicaments qui sont plus utiles, mais c'est rapporter un peu de sucre. Parce que du coup, si vous rapportez un peu de sucre à l'enfant, il va plus besoin de faire d'acétone et vous coupez le vomissement.
Vous nous dites aussi tout ce que vous pensez de l'efficacité des colliers d'ambre. On en voit beaucoup chez les tout petits.
Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Des colliers d'ambre ?
Oui, oui.
On vous écoute.
Toujours, oui, les colliers d'ambre, on en voit encore pas mal. Les colliers d'ambre, en fait, c'est des colliers avec des pierres d'ambre autour, enfin, au moins qui sont supposés être de l'ambre, et qui auraient la réputation d'amoindrir les douleurs dentaires chez l'enfant, notamment, vous savez, quand les dents commencent à pousser chez les bébés. Sauf que ces colliers d'ambre, si vous voulez, ça repose pour pas grand-chose. C'est des pures croyances. Et surtout, ce qu'on sait un peu moins, c'est que ces colliers d'ambre sont quand même un danger pour l'enfant, parce que ça peut, autour des coups des bébés, provoquer des étranglements. Le collier peut se rompre et on peut avoir un enfant qui inhale une petite pierre et ça peut être très grave, puisque on a vu dans certaines études que ça occasionne des décès par strangulation, par ingestion d'une partie du collier d'ambre. Et du coup, vous avez quelque chose qui repose sur une croyance totale, qui n'a rien de scientifique, mais qui peut être dangereux également.
Alors justement, je rappelle que vous êtes médecin aux urgences pédiatriques. Vous voyez des choses un peu baroques, un peu curieuses arriver aux urgences pédiatriques. Je ne parle pas des maladies des enfants, de ces tout petits, mais plutôt des comportements des adultes. J'imagine que les idées de votre livre, vous allez un peu les puiser dans votre vécu.
Ah vous avez totalement raison, c'est des choses du quotidien, c'est des choses de l'expérience personnelle. Comme vous dites, on voit un peu de tout aux urgences pédiatriques, et notamment en termes de croyances, en termes de remèdes de grand-mère, comme on pourrait dire. Mmh. Vous voyez, on parlait du collier d'ambre à l'instant, on voit aussi, pour citer un exemple un peu farfelu, de mettre du vinaigre sur les enfants pour faire baisser la fièvre. C'est un autre petit truc.
De mettre du vinaigre sur quoi ?
Sur les pieds de l'enfant, qui ferait baisser la fièvre. Alors, je vous dis tout de suite, ça marche pas, ça crée juste une belle odeur, comme vous pouvez l'imaginer, mais ça n'a pas d'efficacité sur la fièvre, en tout cas.
Merci beaucoup, Nicolas Winter. On rappelle le titre de votre livre, Le bisou magique existe-t-il ? C'est aux éditions First, et c'est plein de conseils pour les parents, grands-parents et tous ceux qui s'occupent d'enfants.
Voilà, c'était RTL Midi Votre Vie. On reste ensemble, bien sûr, car vous devez savoir que l'info revient dans quelques instants avec le journal de midi et demi. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, merci pour ceux qui sont déjà à l'écoute d'RTL. Vous devez savoir qu'il est exactement 12h30.
RTL Midi. Le 12-30.
Céline Landreau, Rachel Sadodine. Et à 12h30, donc, le journal, la grande édition de la mi-journée, vous est présenté par Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Céline, bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une ce midi, une enfant de 2 ans dans le coma après avoir mangé de la drogue cachée dans un Kinder Surprise.
Elle est sortie d'affaire ce midi, ses parents, devant la justice.
La porte-parole du gouvernement a-t-elle parlé trop vite? Elle annonçait une tentative d'attentat déjoué pendant le week-end de Pâques. C'est loin d'être certain, on vous explique tout dans un instant.
Jean-Marie Le Pen placé sous protection juridique, on vous explique ce que ça veut dire concrètement sur son état de santé. Le projet de loi agriculture enfin présenté en Conseil des ministres. Et puis l'Olympique lyonnais en finale de la Coupe de France, l'OL qui aura vraiment connu un véritable ascenseur émotionnel cette saison.
Juste après le journal, on s'arrête sur l'état des routes en France. Notre réseau malmené par les intempéries, c'est encore le cas actuellement avec ces crues dans l'Yonne. Quel est l'état des routes? Quels dangers? Quels enjeux financiers? On y revient en détail après le journal. Et puis à partir de 13h, ce sera à vous de prendre la parole, Eric.
Trois parties, l'état des routes, est-ce qu'elles sont trop dangereuses? On commence avec ça. Ensuite, les promesses faites aux agriculteurs, est-ce qu'elles sont tenues? Qu'en pensez-vous quelques semaines après la crise agricole? Et pour terminer, une passion des Français pour les danses western, pour le country, pour le Madison. Voilà le programme. Le standard est ouvert. 3-2-1-0. On vous attend.
Country avec l'accent, c'est toujours...
Country, vous avez vu, hein, je suis presque américain.
Le point météo complet à la fin du journal, mais déjà un indice, Peggy Broche.
Avec un ciel de traîne sur les deux tiers nord du pays entre nuages éclaircis et averses, et dans le sud, c'est du soleil.
Merci beaucoup, Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Mauvaise surprise dans le Kinder. Une enfant de 2 ans a ingurgité par erreur de la résine de cannabis.
Aujourd'hui, dans un état stable, la petite fille a passé plusieurs jours dans le coma. Samedi matin, veille de Pâques, elle trouve la drogue dans le garage familial à Morlas, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ses parents ont caché la résine de cannabis dans la petite capsule jaune, celle qui contient en principe les jeux, a assemblé la surprise au milieu du chocolat Kinder. Bonjour Patrick Tégéreau.
Bonjour.
Alors les parents, ils ont reconnu leur négligence et ils vont être poursuivis en justice, Patrick.
Eh oui, car le procureur de la République de Pau ne peut pas laisser passer ça. D'ailleurs, dans ce genre d'affaires, malheureusement trop fréquentes, les parents finissent toujours devant la justice, même si dans ce cas, ils sont honorablement connus et ne sont que des consommateurs occasionnels. Ils comparaîtront donc pour soustraction d'un parent à ses obligations légales. Et pour cela, ils encourent jusqu'à 2 ans de prison. Ils ont avoué leur négligence, déjà en stockant leur drogue dans le fameux petit cylindre jaune qui abrite normalement la surprise d'une marque d'œufs vaguement chocolatée. Et aussi leur manque de surveillance de leur toute petite fille, 2 ans à peine, qui jouait dans le garage de la maison samedi et a trouvé la mauvaise surprise. La mère a expliqué avoir découvert l'enfant avec la boulette dans la bouche, elle lui a fait cracher et l'a vite rincé à l'eau. Toujours selon la mère, la petite n'avait pas avalé de cannabis. Samedi soir, elle a couché l'enfant qui n'avait pas de symptômes, mais dimanche matin, impossible de la réveiller. Alors direction l'hôpital, les médecins constatent un coma calme et la placent en observation. Elle s'est éveillée hier en pleine forme et a été confiée à ses parents très angoissés qui feront certainement plus attention à l'avenir. En tout cas, policiers et magistrats leur ont fait et leur feront la leçon prochainement au tribunal.
Patrick Tégéreau, correspondant de RTL dans le sud-ouest de la France. Une tentative de passage à l'acte déjouée pendant le week-end de Pâques, annonce de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, ce midi à l'issue du Conseil des ministres. Et cette annonce, elle a été démentie entre-temps, Cindy Hubert.
Oui, c'était une erreur. Il n'y a eu aucun attentat déjoué le week-end dernier, contrairement à ce qui vient d'être dit. Confirmation de son conseiller en communication, la porte-parole fait marche arrière. Mais le gouvernement confirme le chiffre de 45 tentative de passage à l'acte déjoué depuis 2017.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL. On ne sait toujours pas de quoi est mort le petit Émile. Impossible de déterminer la cause exacte du décès du garçon de 2 ans et demi. Et ça, malgré la découverte du crâne et des vêtements du petit Émile, 9 mois après sa disparition au Auvernais, selon les déclarations du procureur de la République d'Aix-en-Provence hier soir.
L'état de santé de Jean-Marie Le Pen en question.
Le fondateur du Front National placé sous le régime de protection juridique sur demande de sa famille. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et Jean-Marie Marine Le Pen n'est-il plus en état de prendre ses propres décisions ?
Eh bien, cela signifie qu'il n'est pas en capacité, Jean-Marie Le Pen, eu égard à son état de santé, de gérer ses propres intérêts. Sa santé est devenue fragile après un accident cardiaque l'année dernière. Il sort peu, perd un peu la mémoire, mais il reçoit ses proches et trouve toujours l'énergie pour s'énerver devant sa télévision, ce que me décrit un de ses proches. Il y a tout un tas de dispositifs bien connus dans le droit français, la tutelle, la curatelle et le mandat de protection future en est un autre. Il a fallu une expertise médicale, elle a constaté l'inaptitude de Jean-Marie Le Pen, incapacité principalement à se déplacer. Ses trois filles, Marie-Caroline, Yann et Marine Le Pen, sont devenues les mandataires de leur père. Elles peuvent réaliser tout un tas d'actes, tout un tas de procédures en son nom. Une autre expertise judiciaire, celle-là, prévue dans quelques semaines, permettra de déterminer s'il peut participer en septembre prochain, c'est peu probable, au procès des assistants parlementaires européens, affaire dans laquelle il est renvoyé en correctionnel.
Les précisions de Julien Fautra du service politique de RTL.
Et puis l'actualité politique en ce mercredi, c'est aussi le projet de loi pour l'agriculture présenté en Conseil des ministres.
En préparation depuis plus d'un an, les manifestations des agriculteurs ont largement contribué à la modification du texte. Ce projet de loi, il est très attendu. Donc, Virginie Guérin, vous êtes la spécialiste des questions agricoles à RTL. Bonjour.
Bonjour.
Ils l'ont dit et répété, les agriculteurs veulent des applications concrètes dans les fermes. Est-ce que c'est la promesse de ce projet de loi, Virginie ?
Ça ne va pas se voir tout de suite. Il faut que la loi elle soit déjà débattue au Parlement cet été. Donc, pas d'applications concrètes sans doute avant l'année prochaine. Et puis, les agriculteurs sont méfiants. Donc, elle contribue à apaiser, oui, la FNSEA, le syndicat majoritaire, y a vu de bonnes choses. Les autres syndicats, beaucoup moins. On a quand même l'impression qu'il suffirait d'une étincelle pour faire ressortir les tracteurs.
L'agriculture a élevé au rang de priorité d'intérêt national majeur par le Premier ministre, devant tout autre sujet, y compris l'écologie, et ça se ressent dans ce projet de loi.
Oui, priorité à la production pour garantir notre indépendance, donc il faut réduire tous les freins, et notamment les contraintes écologiques qui se sont empilées depuis 15 ans. Donc cette loi, elle va permettre de faire des réserves d'eau, d'agrandir les fermes avec des recours juridiques moins longs, passer de 40 contrôles administratifs par an à un seul. Ça ne va pas redonner forcément du revenu aux agriculteurs, mais ça va les soulager.
La France, elle a perdu 100 000 fermes en 10 ans. Ce texte, il propose aussi des solutions pour éviter l'hémorragie et faciliter l'installation des jeunes.
Avec un guichet unique pour les futurs agriculteurs, pour les aider dans leur démarche, la création d'un bachelor Bac plus 3 agricole pour améliorer la formation. Et puis tous les petits Français auront en classe élémentaire au moins une journée en immersion dans une ferme, parce que les enfants d'agriculteurs ne suffisent plus pour renouveler les générations. Il faut susciter des vocations ailleurs.
Merci Virginie. Virginie
Garin. Une sortie scolaire pour décider de son avenir.
Au moins dans une ferme, parce qu'au salon de l'agriculture, on se rend très bien compte qu'il y a des petits Français qui ne vont jamais dans les fermes, ils ne savent pas ce que c'est qu'une vache. Donc déjà y aller une fois, ça donne une idée. Peut-être.
Les précisions de Virginie Garin, spécialiste agriculture de RTL. Les inondations en Bourgogne et de nouveaux pics attendus cet après-midi selon Météo France. Lyon toujours en vigilance rouge pour risque de crue. Plusieurs mètres d'eau dans les rues encore ce midi à Tonnerre ou encore Chablis.
RTL midi.
RTL, il est 12h38 et le bilan s'alourdit après le tremblement de terre à Taïwan.
Au moins 9 personnes décédées et plus de 800 blessés. Ce matin, l'île au large de la Chine a subi son plus puissant séisme en 25 ans. Chérie est étudiante, elle habite la capitale, Taipei. Le tremblement de terre l'a réveillée en pleine nuit.
Je dormais lorsque c'est arrivé. La sirène d'alarme a retenti dans la maison. Ça m'a réveillée. Les portes de mon armoire se sont ouvertes. Mes vêtements sont tombés par terre. Ping, bang, boum. C'est le pire tremblement de terre de ma vie. Maintenant, ça va, mais lorsque c'est arrivé, c'était terrifiant. J'ai hurlé dans mon lit. Tremblement de terre, tremblement de terre. Oh mon Dieu. Mon frère, sa copine et ma mère ont hurlé. Tremblement de terre aussi. À Taipei, ça va maintenant. Mais à Hualien, je sais pas, car au moins 2 immeubles se sont effondrés.
Témoignage recueilli par Philippe Dova pour RTL.
Et puis le football, ils l'ont fait. Après un début de saison en enfer, les footballeurs lyonnais ont décroché hier soir leur ticket pour la finale de la Coupe de France.
Grâce à leur victoire 3-0 hier soir face à Valenciennes au Groupama Stadium. Reste à savoir maintenant qui de Paris ou de Rennes les Lyonnais affronteront en finale le 25 mai prochain à Lille. Mais même s'ils ne soulèvent pas la Coupe au bout du compte, on peut d'ores et déjà dire que l'Olympique lyonnais a tout vécu ces derniers mois, Mourad Djabari.
Absolument, avec un début de saison cauchemardesque, bon dernier de Ligue 1 pendant plusieurs mois. Un entraîneur, Fabio Grosso, viré au mois de décembre. C'était le chaos, le néant à ce moment-là. Lyon cumule alors à peine 7 petits points en Ligue 1 et se prépare déjà à une relégation. Et puis l'OL a remonté la pente tout doucement, remonte progressivement au classement, bien aidé, il faut le dire, par un mercato à 50 millions d'euros, pour enfin se qualifier hier soir en finale de la Coupe de France. Un rêve pour le milieu lyonnais, Maxence Caqueret.
c'est magique. On a une saison compliquée, on revient de très très loin. En décembre, je pense que personne ne nous voyait ici. Ça faisait bien longtemps que le club n'avait pas vécu un moment comme ça. Et après, on pensera à aller la jouer. Peu importe l'adversaire, on sera prêt et on fera tout pour gagner cette coupe.
Avec cette finale, Lyon a désormais une chance de remporter son premier trophée depuis 12 ans, mais aussi de se qualifier pour la Ligue Europa. L'Olympique lyonnais rêvait seulement il y a encore quelques mois de sauver sa peau en Ligue 1. Les Gaunes rêvent à présent d'un titre et d'un destin européen.
Mourad Djabari du service des sports de RTL est la deuxième demi-finale de cette Coupe de France qui oppose le PSG à Rennes. C'est à vivre à partir de 21h10, bien sûr, en fil rouge dans les flashs toute la soirée sur RTL. Les Bretons peuvent-ils contrarier les Parisiens? On en parle avec Florian Gazan et Baptiste Durieux dans le podcast quotidien dont refait le match. Il est déjà en ligne sur l'application RTL.
Merci beaucoup Rachel Sadodine. Le temps pour cet après-midi, Peggy, il y a un petit peu de tout, ça bouge beaucoup.
Exactement, un ciel changeant entre nuages, éclaircies, quelques averses localement orageuses du côté de la Bourgogne, le tout avec beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 60 km/h dans les terres, 80 sur les bords de Manche, un peu de neige également en montagne en hauteur des 1900 mètres sur les Alpes. Et alors une région où on sera un peu plus au sec entre la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais en allant vers le Val-de-Loire. Et une autre perturbation arrive par la Bretagne. Il n'y a que dans l'extrême sud, entre le sud de la Garonne et le sud de la région PACA, où là, le temps est sec et bien ensoleillé, avec peut-être une petite averse sur le relief des Pyrénées. Côté température, elles sont douces, de 13 à 17 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 22 dans la moitié sud. Et côté vigilance, donc je rappelle que Lyon est toujours en vigilance rouge pour crue, et l'Aube, la Côte d'Or et la Haute-Marne en vigilance orange.
Justement, ces intempéries qui malmènent notre réseau routier, on en parlera dans un instant. Et puis les nids de poules et les chaussées déformées, ce sera aussi au menu des auditeurs, Eric.
Oui, oui, oui. Écoutez bien d'ailleurs ce qui va se passer sur l'antenne dans un instant, parce qu'on va parler de nos routes. Sont-elles dangereuses? Pour bien solidifier vos argumentaires, mesdames, messieurs, je vous suggère de rester à l'écoute d'RTL. Vous allez peut-être apprendre des choses. En tout cas, je vous attends. Ça sert à ça, la radio. Je vous attends à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Pour commencer ce sujet, les routes dangereuses. Vos routes, près de chez vous, sont-elles dangereuses? À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Éric Brunet, Céline Landreau. RTL Midi. Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
Ce sont plus d'un million de kilomètres qui sillonnent la France, mais nos routes vont mal, vous le savez bien. Vous les empruntez de temps en temps, régulièrement, tous les jours peut-être. Elles sont malmenées, notamment par les intempéries récurrentes ces derniers mois. C'est le cas encore avec les crues ces derniers jours dans le centre du pays.
Un enjeu de sécurité, mais aussi financier. Pour en parler avec nous, Nathalie Troussard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la Ligue de défense des conducteurs. Et bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Spécialiste automobile ici à RTL. D'abord Christophe, un petit rappel peut-être. L'entretien des routes, qui s'en charge?
Personne.
En théorie, ce sont les communes qui détiennent la plus grande partie du réseau. 705 000 km. Ensuite, les départements qui doivent gérer près de 380 000 km. Et 12 000 km pour l'État. Or, la facture est bien souvent trop salé pour les collectivités. Ainsi, le Pas-de-Calais, qui a subi des crues historiques en novembre dernier, a dû débloquer pas moins de 50 millions d'euros pour remettre son réseau en état. Une lente dégradation déjà pointée du doigt par la Cour des comptes qui relève que 53% des chaussées exigent des travaux. C'est 10 points de plus en 10 ans, à tel point que la France, autrefois numéro 1, a chuté à la 18e place mondiale en termes de qualité de ses routes. Nids de poules, fissures, ornières qui se multiplient, avec comme conséquence la sécurité. On estime en effet que dans près de la moitié des accidents, la qualité ou l'entretien des routes est en cause.
Voilà encore un domaine où on périclite. Il n'y a pas que l'étude PISA, vous voyez, il y a aussi l'état de nos routes. Nous sommes avec Nathalie Troussard, hein, c'est ça, Nathalie Troussard?
C'est exact.
Christophe vient de nous rappeler la responsabilité des pouvoirs publics en la matière. L'état des routes est la première cause de mortalité en France, et là on sourit moins, devant l'alcool, devant la vitesse, selon l'Observatoire national de la sécurité routière. Alors ça veut dire que cet entretien que j'ai évoqué avec une certaine ironie, il est criminel à vos yeux?
Alors, l'entretien, il est difficile pour les collectivités locales. Criminelles, on sait qu'en fait, selon les chiffres de l'Observatoire national, dans 30% des cas, le facteur infrastructure, enfin, dans 30% des cas des accidents mortels, le facteur infrastructure est en cause. Ça veut dire qu'effectivement, l'entretien des routes et le déficit d'entretien des routes a un impact extrêmement important sur la sécurité des conducteurs.
Vous imaginez au passage, avec toutes les campagnes qu'on fait sur l'alcool, et même même maintenant la drogue au volant, bon très bien, mais vous êtes en train de nous dire que l'état des routes est encore plus accidentogène, mortel même, que l'alcool et la drogue. C'est terrible d'entendre ça, parce qu'on en parle assez peu.
On en parle trop peu, effectivement. Alors nous, à l'association, à la Ligue de défense des conducteurs, on en parle beaucoup, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe déjà depuis longtemps. Mais c'est un sujet sur lequel on peut intervenir. C'est un sujet sur lequel, en fait, toutes les collectivités locales et tous les usagers, en tout cas, peuvent aussi mettre la main à la pâte et intervenir pour que ça se passe mieux et qu'on entretienne mieux nos routes.
D'ailleurs, vous les appelez, les usagers, à recenser tous les défauts dans les chaussées, les nid de poule notamment?
Exactement, tout à fait, parce que nous à l'association on a monté une application qui s'appelle Active Route, qui existe déjà depuis plusieurs années. Et cette application, en réalité, elle permet aux usagers de la route de signaler une zone dangereuse et nous on va faire tout ce travail, en fait, d'aller chercher le gestionnaire de voirie, de le contacter et de lui signaler en fait cette zone dangereuse jusqu'à ce que le gestionnaire de voirie nous réponde et on vient retransmettre l'information. Alors quand il nous répond, l'objectif pour nous c'est qu'il fait les travaux, qu'il ait amélioré l'entretien de sa route, qu'il ait balayé les gravillons après des travaux, qu'il ait refait son marquage au sol, voire qu'il ait rebouché ses nids de poule.
Christophe le disait, plus de la moitié du réseau est composé de routes communales. Est-ce que ce sont les plus mal en point ou pas forcément d'ailleurs ?
Bah, pas forcément. Les routes communales, en fait, tous les élus locaux rencontrent ces difficultés. Il faut faire des arbitrages, malheureusement. Les dotations de l'État baissent. C'est difficile pour toutes ces collectivités d'arriver à trouver les fonds pour entretenir leur patrimoine routier. Donc, il faut faire ces arbitrages. Et ces arbitrages, parfois, sont malheureusement trop souvent au détriment de l'entretien des routes.
Moi, je tombe de ma chaise, hein. Je suis désolé, avec toutes les campagnes qu'on écoute à la radio sur l'alcool au volant, sur la drogue au volant, sur la vitesse au volant, on découvre maintenant, moi je l'ignorais, que l'état de nos routes, dans 30% des accidents mortels, est donc un critère qui tue davantage que tout ce que je viens de citer. Donc je le découvre et j'en tombe de ma chaise.
Alors justement, si vous êtes automobiliste, si vous êtes élu peut-être en charge dans une collectivité de l'entretien de ces routes, n'hésitez pas, appelez-nous, 3210, vous aurez la parole dès 13h.
On commencera avec ça, oui. Non, les auditeurs ont la parole.
Dans un instant, laissez-vous tenter midi. Stéphane Boutsock nous emmène au ciné.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et aujourd'hui nous sommes mercredi et nous allons donc parler cinéma. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Bonjour Stéphane, on commence par un petit point box-office.
Oui, parce qu'on a les chiffres hier de la fréquentation pour le mois de mars. 15 millions de spectateurs dans les salles françaises, petit tassement, 5% de baisse par rapport à l'an dernier. Mais sur les 12 mois, eh bien la hausse est de quasiment 8%, donc ça se passe plutôt bien. Et si on regarde dans le détail, il y a un nouveau leader. C'est-à-dire que Dune 2 n'est plus le film qui attire le plus de monde, mais on est quand même à 3,7 millions au total. Le nouveau leader, figurez-vous, c'est Po. Po, c'est un panda, c'est même un kung-fu panda. Le quatrième épisode des aventures qui est sorti la semaine dernière a déjà attiré en une semaine 720 000 spectateurs. Les vacances commençant dans quelques jours, ça va être un des cartons du printemps. Notez aussi que Cocorico, la comédie avec Christian Clavier et Didier Bourdon, c'est fait. Passe les 2 millions de spectateurs.
Avec l'histoire de l'ADN dont vous nous aviez
Absolument.
Parlé.
Absolument.
On en vient aux sorties du jour et on commence par la comédie et plus si affinité.
Deux garçons à la réalisation, ils viennent du court-métrage. Ils s'appellent Wilfried Méhance et Olivier Ducret. Ils ont tout gagné au dernier festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. 4 prix, dont le très convoité prix du public, mais aussi un double prix d'interprétation pour celle et celui qu'on va écouter, Isabelle Carré, Bernard Campan, qui incarne un couple qui habite dans un immeuble, couple un petit peu usé par la vie et qui va être déstabilisé par l'arrivée de deux jeunes voisins qui sont joués, eux, par Julia Fort et Pablo Poli, des jeunes voisins très très actifs. et qui la nuit réveillent un peu l'immeuble tellement
ils sont actifs,
tellement ils sont bien, vous voyez. Donc, et donc l'idée c'est, et si on faisait un apéro pour en parler, sauf que ça va pas tout à fait tourner comme attendu. C'est totalement réjouissant, vous savez, la comédie c'est vraiment difficile, il faut du rythme, c'est vraiment du ping-pong, et moi je me souviens avoir vu Le Prénom il y a quelques années, de m'être dit voilà, ça marche. Eh bien on est exactement dans cette veine là ça se passe dans un appartement, ça pourrait être du théâtre filmé, mais c'est du vrai cinoche, les dialogues sont épatants, et puis ce quatuor fonctionne merveilleusement.
C'est de la même veine, parce que c'est très puissant, le Prénom,
vous verrez, c'est un film de légende. Je trouve que l'écriture est absolument brillante pour ce et plus si affinité. Donc on revient à l'histoire des prix. J'ai demandé justement à Isabelle Carré et à Bernard Campan ce que ça faisait d'être sacré comme ça par la profession.
J'ai un rapport un peu compliqué avec les prix, comme avec beaucoup de choses d'ailleurs.
Pas tant que ça.
Mais si, quand même, parce que moi, quand j'étais à la scolaire, j'ai jamais eu de prix. Fils de prof, mais alors cancre. C'est un peu ça mon parcours scolaire. Donc les prix, quand on me demande d'être membre du jury, d'être ou président de jury, etc., j'ai un petit blocage avec ça. J'ai toujours refusé. J'ai jamais fait ça. Parce que je me dis, je vais quand même pas donner un prix à une personne et faire du mal à une autre. Mais l'autre personne, c'est moi, c'est mon enfance. Par contre, j'aime bien les recevoir. C'est une récompense, c'est une reconnaissance du métier, comme on dit, voilà. Qu'on ne se gêne pas, allez-y, ça me fait du bien et ça me fait plaisir.
Mais le Festival de l'Alpe d'Huez a bien rétabli les choses. Ouais. Et avec Bernard, c'est vrai que, ouais, on joue vraiment, vraiment, vraiment ensemble. Donc, qu'il y en a un qui ait un prix et pas l'autre, ça n'a pas de sens, en fait. Et sur les prix, moi, je trouve qu'on les survalorise beaucoup. C'est chouette, hein? Mais c'est la cerise sur le gâteau pour moi, c'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est de jouer ensemble, c'est d'avoir les gens dans la salle qui rient, c'est ou quand ils sortent et qu'ils vous disent « Ah merci, ça m'a fait du bien, j'avais pas le moral, ça m'a un peu reboosté, grâce à vous, je vais passer une meilleure semaine ». Rien que cette phrase-là, c'est un putain de prix.
Isabelle Carré, Bernard Campan, donc à l'affiche de Et plus si affinité, ce sont des retrouvailles puisqu'on les avait déjà vues il y a longtemps dans Et se souvenir des belles choses, le film de Zabou Breitman, et puis dans La dégustation, la pièce de théâtre et le film il y a quelque temps.
Stéphane, vous nous le disiez tout à l'heure, les vacances scolaires débutent ce week-end. Bah, ça tombe bien puisque Duc Obu 5 débarque en
France. Non, ça existe encore. Moi, je regardais ça avec mes enfants, Duc Obu 5. Mais
cinquième épisode. Obu,
il y a toujours Élie.
Alors, non seulement il joue Monsieur Latouche, le professeur prétendument méchant, mais en plus, il réalise. C'est la troisième fois qu'il réalise. Ça fait un carton à chaque fois. Largement plus d'un million d'entrées. Les gamins adorent. Le nouveau Duc Obu, bah oui, parce qu'ils grandissent quand même de film en film, les gamins, s'appelle Damien Pau. Wells, jeune comédien belge absolument épatant. Le sous-titre là, c'est Passe au vert, parce que c'est l'écologie qui est au cœur de ce problème. À la base, ça intéresse pas beaucoup Duc Obu, puis pour être populaire, il va faire semblant, et puis il va prendre goût à la protection de l'environnement. Duc Obu 5, donc ça sort là aussi.
Un tout petit mot de Godzilla.
Oui, c'est quoi, tout petit mot.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
C'est
bon.
Ça mérite
Godzilla
pas plus.
Kong. Donc on réunit Godzilla et King Kong. Le film s'appelle Le Nouvel Empire. Ça rend pas bien plus.
Merci beaucoup, j'adore quand il est rapide. Ben oui, mais faut le dire qu'on sait pas bien quand
la
on
débrouille.
Pas. Ouais. Stéphane Boutsock, merci à vous. Dans un instant, les auditeurs ont la parole. Vous avez la parole. Le danger de nos routes mal entretenues. On vous attend au 3210. À tout de suite.
RTL Midi.